Chères auditrices, chers auditeurs, bonjour, vous êtes bien sur RPHFM et bienvenue dans cette nouvelle émission de l'Astromag, votre rendez-vous astronomique, tous les troisièmes lundis du mois sur RPHFM. Moi c'est Alain, montreur d'ours à l'observatoire d'Anyan et je suis accompagné de Pierre.
Bonjour Alain, bonjour tout le monde, bonjour les auditeurs. Eh bien Alain, il y a un petit peu d'actualité, là en ce moment il y a une Arlésienne, ou je ne sais pas si ça peut s'appeler un super long suspense aussi, qui est en train de nous attendre, quoi.
Oui, alors effectivement, je pense que tu parles de la mission Artemis 1. Alors pour rappel, la mission Artemis, c'est la mission de la NASA qui prévoit le retour des hommes sur la Lune à l'horizon 2024-2025. Alors il y a effectivement eu de multiples reports. Le premier lancement a été prévu le 29 août et un problème de capteur de température a reporté de quelques jours le lancement. Et le 3 septembre, eh bien, c'est une fuite d'hydrogène cette fois-ci qui a reporté à nouveau le lancement. Le 27 septembre, c'est l'ouragan Ayan qui, du coup, a été à l'origine du dernier report. Il y a quelques jours, à l'heure où on enregistrait cette émission, la NASA prévoyait un lancement entre le 12 et le 27 novembre. Et actuellement, eh bien, c'est un laconique fin 2022. Alors, plutôt que d'épiloguer sur plein de raisons diverses et variées, on va quand même s'attarder un petit peu sur toutes les contraintes qu'a la NASA pour ces lancements. Alors déjà, il faut savoir qu'il y a une très grosse pression médiatique. Bon, en gros, il ne faut pas se louper, hein, premièrement. Et parmi les contraintes, eh bien, il y a déjà la position de la Lune sur son orbite, hein, qui est fondamentale. C'est ce qui va permettre l'injection de l'orbite translunaire qui doit être absolument compatible avec les capacités de mise en orbite du vaisseau Orion. Donc ça, c'est la contrainte numéro 1. Ensuite, une deuxième contrainte, c'est que lors de son premier passage autour de la Lune, le vaisseau Orion va forcément passer dans l'ombre lunaire. Et ce passage dans l'ombre doit être inférieur à 90 minutes, ceci pour avoir suffisamment de batterie, quel que soit leur état de charge. Auquel cas, bien, du coup, ça pourrait mener la mission à sa perte. Et enfin, l'une des dernières contrainte, eh bien, c'est la trajectoire de retour qui doit être compatible avec une rentrée dite par rebond atmosphérique. Alors, je ne vais pas m'étendre, mais c'est une nouvelle méthode que veut tester la NASA pour la rentrée atmosphérique. Et enfin, la dernière, c'est que sur une période de 7 jours approximativement, il faut qu'il y ait 3 essais possibles au cas où ça se passe mal sur le premier. C'est pour éviter de déplacer la fusée du VAB jusqu'à son pas de tir pour un seul lancement, entre guillemets. Parlons maintenant du sujet principal de l'émission, à savoir la géante gazeuse Jupiter. Pierre, j'ai entendu parler d'opposition de sa part. Elle s'oppose à quoi ?
Elle s'oppose à rien du tout, mais l'opposition, c'est un phénomène que je vais tenter d'expliquer. Alors, pour ça, il faut se faire un schéma dans la tête, parce qu'on ne peut pas le faire sur papier ici. On prend un point, autour on dessine deux cercles concentriques, le point c'est le Soleil, le petit cercle c'est l'orbite de la Terre et le grand cercle c'est l'orbite de Jupiter. Comme la Terre met un an pour faire le tour de son petit cercle et que Jupiter met 12 ans terrestres pour faire le tour de son grand cercle, eh bien régulièrement, la Terre va tourner plus vite et passer entre le Soleil et Jupiter. Et au moment où la Terre passe entre le Soleil et Jupiter, bon, d'abord, la distance entre la Terre et Jupiter va être la plus courte, enfin une des distances les plus courtes. Et puis deuxièmement, pour voir Jupiter, il faut tourner le dos au Soleil qui est derrière. Donc c'est la nuit, et donc on prend un regard va dans une direction opposée au Soleil, d'où le terme d'opposition. Alors une petite précision, ce 26 septembre dernier, en plus, il s'est produit un phénomène, c'est que les planètes ne tournent pas sur des cercles, en fait, le schéma il est faux, les planètes tournent sur des ellipses, donc leur distance au Soleil varie un peu. Et le 26 septembre, les distances au Soleil de Jupiter et de la Terre étaient telles que la distance entre la Terre et Jupiter était minimale depuis 59 ans. La dernière fois, c'était en 1963. Alors Alain, moi je parle d'opposition et tout, mais qu'est-ce qui fait qu'on distingue la planète Jupiter des autres étoiles ? Parce que finalement, ça n'est qu'un point lumineux.
Oui, alors effectivement, hein, tu as bien raison. Il y a une manière quand même, il y a plusieurs manières hein, d'ailleurs de distinguer une planète d'une étoile. Alors la première, c'est tout simplement par exemple d'observer aux jumelles. On verra du coup que la planète en question, alors que ce soit Jupiter ou une autre, va être un tout petit peu plus grosse qu'une étoile. Et c'est ce qui va permettre de faire la différence entre une planète et une étoile. Alors, il y a un autre moyen, quand on n'a pas de jumelles notamment, c'est d'observer le ciel, et vous allez voir que les étoiles vont scintiller, alors que les planètes, sauf dans deux cas très exceptionnels, ne scintillent pas. Donc là encore, c'est une deuxième méthode pour observer et distinguer une planète d'une étoile, c'est de vérifier si elle scintille ou pas. Et enfin, il y en a une troisième. C'est tout simplement d'observer sur plusieurs jours, voire plusieurs mois, le déplacement des points en question sur la sphère céleste, et on va s'apercevoir eh bien, que certains points sont mobiles très rapidement par rapport aux autres étoiles. Et ça, eh bien, c'est l'origine du mot planète, puisque planétès en grec, ça veut dire errant. Donc, au sens propre du terme, ces points brillants sont des astres errants sur la sphère céleste. Alors Pierre, est-ce que tu peux nous expliquer comment s'est formée la planète Jupiter ?
Bon, en quelques secondes, un espace de temps de 10 millions d'années. Eh bien, la formation de Jupiter est liée à la formation de notre système solaire, qui se forme comme tous les systèmes stellaires, et selon nos connaissances d'aujourd'hui, on sait que même maintenant, c'est l'effondrement d'un nuage de gaz interstellaire qui a été déstabilisé peut-être par une supernova dans un coin et à côté, qui s'effondre sous l'effet de sa propre gravité. En s'effondrant, il forme un disque de gaz et de poussière. Le centre du disque est plus dense. Et comme on comprime du gaz, par la gravité, il va s'échauffer. Il va s'échauffer tellement qu'à un moment donné, le centre du disque atteint une température qui permet le démarrage des réactions de fusion nucléaire. C'est une étoile qui s'allume. Mais autour de l'étoile, il y a toujours ce disque où il reste encore quelques petites choses. Et ce sont ces petites choses qui, par agrégation successive, vont devenir des cailloux, des rochers, puis des planètes. Et Jupiter est dans ce cas-là. Mais le disque en question, il a une particularité, c'est qu'il est un peu plus épais sur les bords qu'au centre. Et de plus, il y a du gaz et de la poussière, mais le gaz plus léger va être soufflé par l'étoile qui vient de naître, donc se retrouve sur les bords du disque. Si bien qu'au bord du disque, les planètes pour se former ont plus de matière et de gaz, et ça forme des géantes gazeuses, alors qu'au centre, on aura la Terre, Vénus, Mars, sans gaz. Le processus pour la formation de Jupiter est estimé à peu près 1 million d'années, la Terre 10 millions. Alors, Jupiter, comment on l'a découverte ?
Alors, on ne peut pas véritablement parler de découverte, puisqu'elle a été observée depuis des temps immémoraux. Les Chaldéens l'ont observée, les Babyloniens aussi, mais les cultures chinoises et indiennes ont aussi des traces de leur observation. Donc, on ne peut pas donner véritablement de paternité à la découverte de la planète Jupiter. Comme toutes les autres planètes du système intérieur, notamment Mercure, Vénus et Mars, et aussi de Saturne, eh bien, ces planètes sont connues depuis l'Antiquité. On ne peut pas véritablement donner de date précise sur sa découverte. Alors, est-ce que tu peux nous parler plus en détail de ses caractéristiques, comme par exemple sa distance, sa rotation, sa révolution, éventuellement sa température ?
Bon, il n'y a rien de révolutionnaire, remarque, là-dedans. Mais Jupiter, c'est d'abord la plus grosse planète du système solaire. C'est pas pour rien qu'elle a le nom d'un roi. En taille, elle fait à peu près 11 fois la Terre en diamètre. Mais en masse, elle fait 300 fois la Terre. Et la masse de Jupiter à elle seule représente plus de deux fois la masse de tout ce qu'il y a dans le système solaire, sans le Soleil, bien entendu. Alors, elle tourne sur elle-même, une rotation en 10 heures, un tout petit peu moins. C'est la plus rapide du système solaire. Et cette rotation se manifeste quand même par un élargissement du diamètre équatorial qui est supérieur de 1000 km à son diamètre polaire. Elle a aussi une particularité, c'est qu'elle développe un champ magnétique très intense. En fait, c'est lié à l'intérieur de Jupiter constitué d'hydrogène dans des phases un peu multiples, liquide, métallique, etc. Et ce champ magnétique est tellement important qu'il s'exerce jusqu'au-delà de l'orbite de Saturne. Elle tourne autour du Soleil, je l'ai dit tout à l'heure, en 12 ans, ce qui fait une année par signe du zodiaque à peu près. Température de surface de Jupiter, pas très chaud, moins 150 à moins 100 degrés. Mais plus on descend dans le cœur de Jupiter, vers le cœur de Jupiter, plus il fait chaud. Et au cœur de Jupiter, on pense qu'il fait à peu près 35 000 degrés. Une particularité de Jupiter, c'est qu'elle renvoie plus de chaleur qu'elle n'en reçoit. Alors on pense qu'il y a déjà deux causes principales, sans doute, à cela. D'abord, Jupiter n'a peut-être pas fini tout à fait ce qu'on appelle sa contraction gravitationnelle, c'est-à-dire l'équilibre qui la rend sphérique. Et elle se rétrécirait encore un petit peu, mais pas grand-chose. 1 mm à 2 cm par an, la marge d'erreur est quand même encore assez grande. Et puis d'autre part, comme beaucoup de planètes, y compris la Terre, Jupiter dégage encore une chaleur résiduelle qui provient de sa formation et qui n'a pas encore été totalement évacuée. Alors un dernier point, L'inclinaison de Jupiter sur son axe est faible, 3 degrés par rapport au plan de rotation, alors que la Terre, c'est plus de 20 degrés. Et de ce fait, il n'y a pas de saison sur Jupiter, donc les pôles qui sont froids restent toujours très froids, l'équateur qui est plus chaud reste toujours plus chaud, puisqu'il n'y a pas de saison, et ceci contribue à entretenir les mouvements de convection dans son atmosphère, dont tu vas sûrement nous parler maintenant.
Oui, alors parmi effectivement les phénomènes remarquables qu'on peut observer à la surface de la planète Jupiter, eh bien déjà dans un premier temps il y a la grande tache rouge, c'est une gigantesque tempête, et quand on parle de tempête, on est bien au-delà de ce qu'on connaît sur Terre, puisque les vents vont globalement de l'ordre de 400 à 700 voire 800 km/h, c'est la plus grosse tempête du système solaire. Sa taille fait de l'ordre de 40 000 km de long pour 12 000 de large, et elle est visible dans des petits télescopes d'amateurs, mais par contre pas dans des jumelles. Il faut vraiment un télescope pour pouvoir commencer à l'observer. Ensuite, on peut observer deux bandes qui sont des zones météo très actives. C'est ce qu'on appelle les bandes équatoriales. La grande tache rouge de Jupiter dont on vient de parler, eh bien, elle est dans la bande équatoriale sud. Et ces bandes équatoriales sont très faciles à observer. Un petit peu moins pour la bande nord, qui peut parfois être plus difficile à observer, qui disparaît. Pas totalement, mais qui peut disparaître. Et ensuite, il y a le reste de la planète, ce qu'on appelle les bandes tempérées, nord et sud. Elles sont par contre, elles, beaucoup plus délicates à observer, et elles peuvent disparaître totalement et réapparaître quelques années plus tard. Alors actuellement, on a estimé que c'était sur un cycle qui se fait sur environ 25 ans. Mais dis donc Pierre, est-ce que la planète Jupiter a des anneaux comme ceux de Saturne ?
Eh bien oui, elle joue la houppe aussi. Alors, ces anneaux, on ne les voit pas beaucoup parce que, en fait, ce sont des anneaux de poussière et non pas de grains de glace comme autour de Saturne. On les a soupçonnés en 1974 quand la sonde Pioneer a montré au passage qu'il y avait des irrégularités autour de Jupiter. Mais ce sont les sondes Voyager en 1979 qui ont révélé, avec des images à la clé, les anneaux de poussière de Jupiter. Bon, puis après, les sondes Galileo, Juno et au passage New Horizons en 2007 ont confirmé tout ça. Alors ces poussières, on pense qu'elles sont issues de multitudes de petits impacts sur les lunes qui avoisinent Jupiter. L'âge des anneaux est par contre totalement inconnu. Bon, sur Saturne, on verra, on sait qu'on a des doutes aussi. On distingue trois anneaux de poussière, l'anneau Halo, H-A-L-O, forme de beignet un peu plus épais, puis l'anneau principal, plus brillant, étroit, mince, où les poussières ne restent pas longtemps, elles se renouvellent tous les 100 à 1000 ans. Et puis enfin l'anneau Gossamer qui est au-delà plus large et plus épais. Il pourrait exister un quatrième anneau. Alors on ne le connaissait pas avant l'an 2000, maintenant on a un soupçon, mais il est à confirmer. Et puis pourquoi se dire que Jupiter n'a pas de gros anneaux puisqu'elle est plus grosse que Saturne ? Eh bien tout simplement, quand on applique avec des simulations informatiques les lois de la mécanique céleste, on s'aperçoit que les quatre satellites galiléens détruiraient les anneaux s'il y en avait. Alors ces satellites galiléens, je te laisse le soin d'expliquer ce que c'est.
Alors effectivement Pierre, la planète Jupiter a énormément de satellites, 80 au total, 4 qui sont très connus puisqu'ils ont été les 4 premiers découverts par Galilée, d'où leur nom de satellite galiléen, et qui ont eu d'ailleurs des retentissements énormes dans la compréhension de l'univers. Ces 4 satellites sont visibles avec des jumelles mais aussi des télescopes d'amateurs, et leur importance, eh bien, c'est tout simplement parce qu'ils ont permis de prouver les thèses héliocentriques du système solaire qui avaient été émises par Copernic. Alors, on va parler de Io, qui est le plus proche des satellites de Jupiter. Son volcanisme est 100 fois supérieur à celui de la Terre, ce qui fait que sa surface est renouvelée en quelques milliers d'années. Et ce volcanisme, il est lié à son orbite très elliptique, ce qui fait que quand il est très proche de la planète, il a tendance en fait à s'étirer sous la forme comme un ballon de rugby, on pourrait dire patatoïdal, si ça vous arrange. Alors que quand il s'éloigne, eh bien, il va avoir une forme un petit peu plus ronde, et cet effet de pompage va entretenir la chaleur et l'effet de volcanisme à la surface de Io. Ensuite, on a le satellite Europe, qui est de la taille de la Lune approximativement. C'est un satellite dont la surface est très lisse. C'est d'ailleurs probablement la surface la plus lisse du système solaire. Et sa surface est formée de glace. Et en dessous de cette croûte de glace, eh bien, on suspecte un immense océan souterrain dont la quantité d'eau pourrait être 2 à 3 fois supérieure à la quantité d'eau qu'on connaît sur Terre. Alors ensuite, il y a le satellite Ganymède. Alors Ganymède, c'est le plus gros satellite du système solaire. Il est plus gros que Mercure, la plus petite des planètes du système solaire. La quantité de roche et la quantité d'eau sont égales. Et donc, du coup, on suspecte, là encore, une immense quantité d'eau souterraine. Mais là encore, voilà, tout ça, ce sont que des hypothèses. Et enfin, pour Callisto, bon, il est assez mal connu, mais ce qu'on pourrait dire très rapidement sur ce satellite, eh bien, c'est que c'est l'un des plus cratérisés du système solaire. Mais dis donc, Pierre, est-ce que la présence de tous ces satellites ne cache pas une influence gravitationnelle hors norme ? Est-ce que tu peux nous en dire plus ?
Eh bien, oui, puisque Jupiter est très gros. Comme tout corps massif, Jupiter va générer un champ gravitationnel autour de lui, et plus le corps est massif, plus le champ gravitationnel est intense. Alors un champ gravitationnel, c'est quoi ? C'est la gravitation, c'est ce qui fait qu'on se casse la figure si on saute du 5e étage et qu'on s'écrase par terre. Et ça a 3 effets, disons. Le champ gravitationnel va d'abord modifier les trajectoires des objets qui passent autour. Ça a été le cas de la comète Halbop, qui est passée près de Jupiter en 97 et qui a vu sa période réduite de 4200 ans à 2500 ans. Ça peut aussi capturer des objets, un champ gravitationnel qui se met à tourner autour, ça satellise des objets, ça les fait tomber sur la planète même, donc ça les fait disparaître du reste du système. Et puis ça peut détruire des objets plus fragiles aussi. Alors ça, c'est arrivé à la comète Shoemaker-Levy en 94, qui est tombée en 24 morceaux sur Jupiter, en 1995. Alors, c'est dû à ce qu'on appelle l'effet de marée. Je vais essayer en 2 mots d'expliquer ce que c'est. L'effet de marée, c'est dû au fait que l'intensité d'un champ gravitationnel est fonction de la distance. Plus on est loin, moins on le ressent. Donc, si je me place sur Terre et que je regarde l'effet sur la Lune, eh bien, le point qui est le plus éloigné sur la Lune va subir une force d'attraction de la Terre moins forte que le point qui est le plus près. Donc, sur la Lune, la Terre tire plus d'un côté que de l'autre. Il y a un étirement de la Lune. Cet étirement a sans doute ralenti et arrêté la Lune. Bon. Mais Jupiter va provoquer ce même effet de marée. Et cet effet de marée va, si l'objet qui passe à côté de Jupiter l'étirer, mais si l'objet n'est pas assez résistant, eh bien il va éclater. C'est ce qui est arrivé à cette comète. D'ailleurs, tu y as fait allusion en parlant du volcanisme de Io. C'est aussi l'effet de marée qui active le volcanisme de Io d'une certaine manière. La Lune aussi exerce sur la Terre un champ gravitationnel. La Terre se trouve dans son champ. Et ça se remarque pourquoi ? Parce que ça produit un effet d'étirement sur la Terre, et c'est le bourrelet extérieur de la Terre plus malléable, les océans, qui crée ce bourrelet d'étirement. Ça s'appelle les marées, d'où le nom de l'effet. L'effet de marée, c'est donc un phénomène universel, comme la gravitation. Mais Jupiter nous a aussi permis de clarifier un autre phénomène universel, la vitesse de la lumière, non ?
Oui, alors effectivement, puisque à l'époque, au XVIIe siècle, eh bien subsistait une très grosse inconnue, c'est est-ce que la lumière était un phénomène instantané ou alors est-ce que la lumière avait une vitesse ? Alors il y a eu plein d'expériences par le passé qui avaient été des échecs retentissants. Et Cassini, lorsqu'il observe la planète Jupiter, et notamment les positions de Io, avec la mécanique céleste de Newton, eh bien, on était capable de prédire pratiquement à la seconde près quand est-ce que, par exemple, Io allait passer dans l'ombre de Jupiter et quand est-ce qu'il allait en ressortir. Alors Cassini, il observe que ces éphémérides sont fausses. Mais ce qui est encore plus surprenant, c'est que ces éphémérides les erreurs de ces éphémérides sont variables selon le temps à laquelle on fait l'observation. Et donc Cassini ne comprend pas du tout le phénomène, et Ole Rømer va lui suggérer une idée. Il va lui dire, mais si la lumière a une vitesse, alors ça va peut-être expliquer ton problème. Alors, les calculs d'Ole Rømer sont assez complexes. Ils vont mener à une vitesse de la lumière qui est de l'ordre de 220 000 km par seconde, qui a environ 30% de moins que ce qu'on connaît aujourd'hui. Alors, malheureusement, cette hypothèse, eh bien, elle est très mal acceptée. Elle est très mal acceptée, pourquoi ? Parce qu'il y a notamment le fait que la méthode est assez douteuse. Elle est basée sur la distance Terre-Soleil. Et à l'époque, cette distance-là était déjà très mal connue et faisait débat. Finalement, c'est Léon Foucault qui va trancher le débat, puisqu'il va effectuer la première mesure de la vitesse de la lumière à 300 000 km par seconde. Voilà donc ce qu'on pouvait dire sur la vitesse de la lumière. Alors si vous prenez l'émission en cours de route, eh bien vous êtes bien sur les ondes de Radio Pays d'Hérault et RPH Sud, et vous écoutez l'émission Astromag.
Bon, ben, puisque je pense qu'on a fait le tour de Jupiter, sans mauvais jeu de mots, est-ce qu'on peut la voir pendant ce mois de novembre, Jupiter ?
Oui, ben d'ailleurs, je vais faire une petite rubrique éphéméride. Alors, déjà, on va parler de la visibilité des planètes. On va partir de la première, hein, donc la planète la plus proche du système solaire, c'est Mercure. Et on va intégrer Vénus, puisque toutes deux sont inobservables pendant tout le mois de novembre. Alors ensuite, il y a Mars et Jupiter qui sont observables quasiment toute la nuit. Alors Jupiter, faudra privilégier la première partie de nuit, mais bon, globalement observable toute la nuit. Saturne, elle, par contre, il faudra absolument le faire en première partie de nuit, puisqu'elle se couche en milieu de nuit. Et donc, voilà, on ne pourra pas la faire au petit matin, par exemple. Ensuite, eh bien, il y a Uranus qui est à l'opposition, on en a parlé tout à l'heure, c'est le 9 novembre. Elle sera donc, elle aussi, observable toute la nuit. Par contre, il va falloir au moins une jumelle pour l'observer, ou mieux un télescope. Et enfin, la planète Neptune sera, elle, seulement visible dans un télescope, et elle le sera toute la nuit pendant ce mois de novembre. Ensuite, on va parler des rendez-vous lunaires, puisque ça pourrait être d'ailleurs une autre manière de repérer les planètes dans le système solaire. Le 1er et le 2 novembre, le premier quartier de Lune va traverser la constellation du Capricorne et fera donc un petit passage auprès de Saturne. Quelques jours plus tard, c'est les Poissons, hein, la constellation des Poissons qui est traversée par la Lune et donc rendra visite à la planète Jupiter. Le 11 novembre, eh bien, la pleine Lune va passer à proximité de la planète Mars. Et enfin, je vais le signaler, le 8 novembre, eh bien, ce sera une éclipse totale de Lune. Mais alors, par contre, pas besoin de le noter dans vos agendas, puisque seulement les observateurs de l'océan Pacifique pourront l'observer. Ici, en Europe, ce sera totalement inobservable. Alors, dans les phénomènes notables à voir dans le ciel, eh bien, on va parler d'étoiles filantes, et notamment le 17 et 18 novembre, puisque les Léonides vont être l'essaim d'étoiles filantes de ce mois-ci. Alors, il va falloir observer le ciel principalement à l'œil nu, confortablement allongé dans une chaise longue, et vous pourrez observer probablement des étoiles filantes très brillantes, très rapides, d'une quinzaine à une centaine. Toute la particularité des Léonides, c'est qu'elles peuvent être très variables. Il peut y avoir d'ailleurs des rebonds d'activité. Il y a quelques années, par exemple, il y a eu un rebond d'activité alors qu'on s'y attendait pas du tout. Et enfin, je vais quand même le signaler, le Soleil, ce mois-ci, du 23 novembre au 30 novembre, va traverser la constellation du Scorpion. Et c'est la constellation la plus courte qu'il va avoir à traverser durant toute l'année. Seulement à peine une semaine, contrairement à un mois, comme on pourrait se l'imaginer. Merci à tous les auditeurs de Radio Pays d'Hérault et de RPH Sud d'avoir suivi l'émission Astromag, l'émission astronomique concoctée par l'Observatoire astronomique d'Agnan. Notre prochain rendez-vous, ce sera le 21 novembre à 10h ou le samedi 26 novembre à 18h. Et on parlera d'une autre planète, celle avec des anneaux, la planète Saturne.